Radio Kapi. Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Calme relatif ce samedi dans la région de Walikale au Nord Kivu. Cela trois jours après l'occupation de Walikale Centre par le M23 AFC. On note cependant une crise humanitaire et sanitaire qui secoue le territoire de Walikale à la suite des combats, signale la société civile locale. Prenez la parole, c'est le thème choisi pour célébrer la semaine de la langue française et de la francophonie du 15 au 23 mars en cours. À l'occasion, Radio Kapi et l'ambassade de France s'emploient en sorte que les personnes vivant dans les milieux ruraux et les jeunes peu scolarisés apprennent le français via la radio. Et puis, l'invité de ce midi, professeur Léontine Sanganga-Jiniemba, présidente de l'association des femmes chrétiennes de l'archidiocèse de Kisangani. Elle nous parle des objectifs de cette structure ainsi que des activités qu'elle réalise. Madame, messieurs, bonjour. Situation relativement calme et imprévisible ce samedi dans la région de Walikale au Nord Kivu. Cela après l'occupation le mercredi par les rebelles du chef-lieu du territoire. Pas d'affrontement depuis trois jours maintenant. Cependant, des sources concordantes nous apprennent que les bombardements d'hier vendredi lancés par l'armée en direction des rebelles à Walikale Centre ont causé quelques dégâts matériels importants. C'est entre autres le pont Loa situé en pleine cité qui est endommagé ainsi que l'aéroport de Kigoma. On note par ailleurs une crise humanitaire et sanitaire qui secoue le territoire de Walikale à la suite des combats. C'est comme le décrit ici la société civile locale.
Cette situation a plongé justement la population dans la rue et aussi d'autres dans des zones supposées être sécurisées. Et que dans l'ensemble du territoire, il y a au moins quatre zones de santé, des Pinga, des Kibua, des Tebeo, aussi des Walikale Centre. Et toutes les zones-là sont dépourvues de médicaments essentiels pour justement intervenir aux déplacés. Et d'ailleurs, certains déplacés seraient réfugiés vers les centres de santé ou dans des hôpitaux pour être protégés. Qui malheureusement, toutes les zones de santé-là, il n'y a pas d'assistance humanitaire. Il faut savoir que à la zone de santé de Walikale, c'est MSF Hollande qui est là, qui aussi est en difficulté en termes de ravitaillement de médicaments et que actuellement, il est incapable de bien faire son travail. Nous continuons à alerter la communauté nationale, internationale et aussi les organisations humanitaires de voir comment est-ce qu'ils peuvent, tant soit peu, trouver un couloir humanitaire pour assister à un certain moment. C'est là qui serait en difficulté à ce net moment.
Du côté de l'Ituri, des affrontements ont repris ce matin entre l'armée ougandaise UPDF et la milice Codeco au village Bethléem. C'est après deux jours d'accalmie dans la région de Fataki, au nord de la ville de Bunia, territoire de Djougou. Difficile pour l'instant d'établir le bilan de ces accrochages, confient les sources locales. Cependant, on déplore le déplacement massif de la population de cette région qui est actuellement concentrée à Djaïba et autour des bases militaires de la MONUSCO. On signale également le pillage des véhicules sur la nationale numéro 20 par les miliciens avec comme conséquence la suspension du trafic sur cette route. Le point avec Ezekiel Mousalia.
Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues depuis tôt ce samedi matin dans les régions de Fataki, Djaïba, à plus ou moins 80 km de la ville de Bunia, dans le territoire de Djougou. Des sources locales indiquent que c'est après le retrait observé depuis vendredi de certains militaires ougandais qui ont quitté Fataki pour Mahagi où ils ont installé leur base. Les troupes qui sont restées par contre à Bethléem ont été surprises par des tirs des miliciens de la Codeco après agression la nuit d'un jeune du milieu par des bandits armés non autrement identifiés sur le tronçon Arboudou, ce qui aurait suscité encore des tensions entre les belligérants deux jours après l'accalmie sur le front, indiquent des sources concordantes. Des sources sécuritaires parlent de plusieurs morts de part et d'autre, sans toutefois donner des précisions. Pour l'instant, la circulation sur la route nationale numéro 27, axe Bakalou-Libi, est interrompue après le pillage des quatre véhicules, dont deux camions, par les miliciens Aditso et Tali. Nous n'avons pas encore la réaction de l'armée à ces sujets. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Entre-temps, l'Assemblée nationale et le Sénat viennent de procéder à l'autorisation d'une nouvelle prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, justement. Cela une semaine après l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre. Au cours de la première plénière qui a eu lieu hier, les deux chambres du Parlement ont adopté leur calendrier des matières à débattre au cours de cette session. L'économie du calendrier de la chambre basse du Parlement avec Michel Kifindangoy.
Ce calendrier comporte deux grandes rubriques, à savoir les matières non législatives, 9 au total, et les matières législatives, donc 5 arriérés législatifs, ainsi que les nouvelles matières. S'agissant des matières non législatives, on note, outre la validation des pouvoirs des nouveaux élus de Massima Nimba et de Akoma notamment, l'Assemblée nationale examinera le rapport de synthèse des vacances parlementaires, le contrôle parlementaire avec des questions écrites, orales et des interpellations, ainsi que l'examen des rapports annuels des activités de la CENI, de la CNDH, du CESAC et de la Cour des comptes. Elle examinera aussi les rapports des commissions permanentes défense et sécurité, relations extérieures, ainsi qu'économiques et financières, ayant travaillé pendant les vacances parlementaires. Dans la rubrique des matières législatives figurent 5 arriérés, dont la proposition des lois portant modification du code pénal congolais et la loi Sakata sur la lutte contre le tribalisme. Plusieurs autres nouvelles matières ont été adoptées à l'unanimité par la représentation nationale.
S'agissant de la prorogation de l'état de siège dans une partie du pays, c'est le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Samuel Mbemba, qui a, au nom du gouvernement, présenté ce texte dans les deux chambres du Parlement afin de solliciter leur autorisation. Après débat et délibération, les deux chambres ont adopté le projet de loi portant autorisation de l'état de siège dans une partie du pays. Rendons-nous dans la ville de Boma, au Congo central. Le tribunal militaire de garnison a condamné jeudi 12 présumés bandits à la peine de mort. C'était à l'issue d'une audience en procédure de flagrance organisée en présence du ministre d'État à la Justice et garde des Sceaux. La mission d'observation des procès de la Fédération des droits de l'homme et de développement qui a monitoré ce procès dit avoir révélé plusieurs failles dans son déroulement. Selon le coordonnateur de cette mission, les éléments de la police déployés sur terrain dans le cadre de l'opération Ndobo ou Hamson se sont livrés à des arrestations arbitraires, tortures, vols et extorsions. On écoute à ce sujet Gabriel Makiese au micro de Nana Plurich Mambo.
La mission d'observation des procès de la Fédération congolaise des droits de l'homme et de développement a pu relever plusieurs failles ayant entaché le déroulement de ces procès qui a plus revêtu les caractères politiques que juridiques. Primo, il convient de dénoncer le mode opératoire caractérisé par des manquements aux règles nationales et internationales à la matière, dont les arrestations arbitraires, les tortures, les vols et extorsions par les éléments de la police en est découlé. Donc, pour maximiser le nombre de personnes à présenter devant le ministre dans le cadre de l'opération Ndobo, les éléments de la police déployés sur terrain se sont livrés dans les arrestations même de ceux qui ne faisaient pas l'objet d'accusation et même pas surpris en infraction. Secondo, il convient de relever l'amateurisme et l'immaturité professionnelle dans le chef de l'auditorat, caractérisé par des qualifications erronées de faits en relation avec les infractions, la présentation des mineurs devant la juridiction militaire, puis j'en passe. Par conséquent, il s'est de noter que le tribunal a jugé des affaires ne relevant pas de sa compétence matérielle.
Notez que pendant son séjour à Boma, dans le cadre du désengorgement des prisons à travers le pays, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a également procédé à la libération conditionnelle de 79 détenus de la prison urbaine de Boma en exécution de la grâce présidentielle signée le 30 décembre 2024 par le président de la République. Je vous l'ai dit dans le sommaire, du 15 au 23 mars 2025, le monde célèbre la semaine de la langue française et de la francophonie, placée sous le thème « Prenez la parole ». Cette semaine célèbre la richesse et la diversité de la langue française. En RDC, Radio Okapi, en collaboration avec l'ambassade de France, redouble d'efforts pour permettre aux personnes vivant dans les milieux ruraux et aux jeunes peu scolarisés d'apprendre le français via la radio. Au reportage de Ronéline Tibonera.
Au port de la cathédrale en Mbandaka, nous rencontrons Belinda, une commerçante fidèle auditrice de l'émission Parlons Français qu'elle dit suivre sur son poste récepteur. De manière spéciale, Belinda participe ces jours à une édition en direct de l'émission organisée dans sa ville. Après quelques heures d'apprentissage, elle est désormais capable de demander les prix d'un produit en français.
Combien coûte votre babouche?
Ma babouche, ça coûte 500 francs.
Plus loin, à Kinshasa, Madame Paola, qui n'a pas eu l'occasion de suivre un parcours scolaire, consacre son temps libre à écouter les épisodes de ses programmes radio. Aujourd'hui, elle partage avec nous ce qu'elle a appris, notamment sur la manière d'exprimer son soulagement en français.
Je suis soulagé si il fait très chaud. Je vends de l'eau froide, je prends de l'argent, je me sens soulagé. Si je mange les foufous avec les mfumbwa.
Trésor Panda et notre auditeur saluent la stratégie de production qui valorise les langues locales pour faciliter l'apprentissage du français.
À la même minute où on sait employer un terme dans une des langues parlées en RDC, à la même minute, on apprend sa version à langue française.
Avec plus de 321 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, les Français est, avec l'anglais, la seule langue parlée sur tous les continents.
Par ailleurs, sémillantes et succulentes sont nos langues et dialectes. Tel est le thème de la Journée internationale de la francophonie avec sa branche Congophonie célébrée par l'ISDR Kikwit dans le Kwilu. À cette occasion, le point focal de la francophonie et congophonie au Grand Bandundu a dressé un constat malheureux, celui de la disparition des dialectes et langues maternelles dans ce coin du pays. D'après ces enquêtes, seuls 2% d'enfants qui naissent dans des milieux urbains peuvent parler leur dialecte. Pourtant, ces langues sont des valeurs culturelles à ne pas perdre, indique le professeur Joël Matomo, DG de l'ISDR Kikwit. Il est au micro de Irène Boma.
Le 20 mars, la journée de la francophonie, avec sa branche que nous appelons la congophonie. La congophonie, c'est pour les valeurs, pour remettre les valeurs de langue et dialecte congolaise, puisque nous constatons que ces langues sont maintenant en danger. Même les enfants qui naissent dans les villes, en tout cas rares, j'ai fait les enquêtes, on a trouvé que n'y a pas des enfants qui parlent leur langue, exceptionnellement 2%. C'est comme s'il y a un génocide de nos langues. Ainsi, la journée congophonie, cette année ici, avait comme thème similante et séculente sont nos langues et dialectes. Alors, nous voulons rendre nos langues à leur place, puisque le français que nous parlons nous aide dans beaucoup de cas, travail, ainsi de suite. Mais nos langues, nous ne pouvons pas les perdre, puisque c'est là nos propres valeurs culturelles.
À l'occasion de cette célébration, deux livres du professeur Joël Matomo ont été présentés dans la planification stratégique nationale et la solidarité locale d'épargne et de crédit pour la lutte contre la pauvreté. Il y a eu également présentation des poèmes en langue maternelle, danse folklorique, visite au musée de Kikwit et autres. Dans l'actualité aussi, inauguration hier à Lubumbashi de l'école primaire Kileshe, un ouvrage réalisé par l'UNICEF avec l'appui financier de la Communauté nationale de la Belgique. Elle est située en plein cœur d'un quartier défavorisé de Lubumbashi qui manque d'infrastructures de base. Cette école compte 500 élèves dont plus de la moitié est constituée des filles. Jean Gandouf, reportage.
Cette école est située au quartier Kipanta dans la commune annexe à environ 12 km du centre-ville de Lubumbashi. Ce quartier est dépourvu d'établissements scolaires. Les parents qui ont des moyens inscrivent leurs enfants dans les écoles privées qui sont à près de 4 km. Les autres enfants qui ne fréquentent pas l'école sont ainsi exposés à l'oisiveté, au risque de viol et à d'autres formes de violences qui en découlent, dont le mariage forcé et précoce, le travail dangereux notamment dans les sites miniers, a indiqué la chef de bureau de l'UNICEF Lubumbashi. Ainsi, cet ouvrage dont le coût et de 215 500 dollars américains est constitué de 6 salles de classe, d'un bureau administratif, tous équipés, des blocs sanitaires, d'un forage d'eau et d'un espace récréatif. La chef de bureau de l'UNICEF s'est dite heureuse de voir ce projet aboutir en vue de permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Annie Choa.
C'est un sentiment de joie parce que il y avait beaucoup d'enfants qui n'avaient vraiment pas la possibilité d'étudier. Nous avons donné quand même du sourire à beaucoup d'enfants.
Ce geste est aussi apprécié par le directeur directeur d'école, mais il plaide aussi pour la mécanisation des enseignants, Christian Kafoukou.
Les enseignants ne sont pas payés, ils se donnent malgré les paies qu'ils reçoivent, les parents nous viennent en aide. Ils payent 5000 francs, sur les 500 élèves, c'est 200 qui peuvent vous payer.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Direction la Tchopo. La population de cette province est appelée à protéger les forêts pour les générations futures contre les effets du serre. Cet appel est de la ministre provinciale de l'Environnement, intervenue hier à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des forêts. C'était devant la presse locale, en présence des cadres du jardin zoologique de Kisangani, des responsables de la coordination provinciale de l'environnement, ainsi que de l'inspection provinciale de l'agriculture. Madame Bijou Koy recommande à la population de cette province le reboisement et la gestion rationnelle des forêts, compte rendu de Jacques Moukonkolé.
Pour la ministre provinciale de l'Environnement, la province de la Tchopo est essentiellement forestière. Elle doit se développer grâce à ses essences variées. C'est pourquoi la population doit être informée de l'importance des forêts, souligne Madame Bijou Koy.
C'est un patrimoine que nous ne devons pas perdre, nous tous. Dans nos écoles, partout du matériel primaire, secondaire et universitaire. Ne cessons pas de montrer la valeur des forêts à nos enfants.
Plusieurs études, dit-elle, révèlent que la déforestation en RDC est due en grande partie à l'agriculture itinérante sur brûlis. La ministre provinciale de l'Environnement salue les efforts en cours visant la migration vers l'agroforesterie.
Des cultures pérennes s'observent dans la province de la Tchopo. Nous devons par ailleurs conjuguer l'effort pour une autonomisation alimentaire, manger une nourriture saine pour manger bio.
Signalons qu'au terme de cette adresse, Bijou Koy a procédé à la plantation symbolique d'un arbre en guise de reboisement au jardin zoologique. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale. L'adversaire de Mohamed Ali en boxe dans le combat du siècle à Kinshasa, George Foreman, est mort. Deux fois sacré champion du monde, le boxeur américain s'est éteint vendredi 21 mars à l'âge de 76 ans. George Foreman était entré dans l'histoire de la boxe à l'occasion de son mythique combat perdu contre Mohamed Ali devant 100 000 personnes en 1974 à Kinshasa, annonce sa famille. Véritable légende des poids lourds, le boxeur américain était en entré dans l'histoire, comme nous venons de le dire, de la boxe à la suite de sa défaite contre Mohamed Ali lors du mythique combat en 1974 ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo.
L'invité.
Nous recevons professeur Léontine Sanganga Jinyemba, présidente de l'Association des femmes chrétiennes de l'archidiocèse de Kisangani. Elle nous parle des objectifs de cette structure ainsi que des activités qu'elle réalise tant sur le plan socio-économique que culturel. En ce mois des droits des femmes, Léontine Sanga s'est confiée à Radio Kapi. Elle s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Professeur Léontine Sanga, bonjour. Quelles sont les activités que vous organisez dans les paroisses?
Nous visons plusieurs objectifs, parmi lesquels l'encadrement des mamans dans leur pratique de la foi catholique en imprégnant les temporels de l'esprit évangélique. Nous tenons à maintenir les contacts et suivis avec les structures du Conseil pour l'apostolat des laïcs catholiques congolais, calcessiensite, et de l'église locale pour une pastorale d'ensemble. Nous tenons à coopérer avec l'ordinaire du lieu et avec le clergé, le domaine de l'évangélisation, conformément aux options pastorales du diocèse. Donc, nous devons toujours travailler avec les responsables, les curés des paroisses et aussi les autorités au niveau de toute l'Église. Ici, nous voyons Son Excellence Monseigneur l'Archevêque et l'évêque auxiliaire. Nous visons, à côté des activités spirituelles, nous visons le développement intégral de la femme. Et nous devons savoir que parmi les personnes qui sont beaucoup frappées par la pauvreté, c'est plus la femme. Et alors, ici, au niveau de notre association, nous sommes en train de travailler pour que vraiment la femme puisse s'épanouir, progresser, se développer. Par exemple, en sensibilisant et en conscientisant les femmes pour participer aux solutions des problèmes de leur communauté respective, en examinant et en traitant des problèmes spécifiques de la femme et de la famille, en travaillant et en luttant pour un changement effectif des mentalités, qui est vraiment une condition sine qua non d'un développement durable et authentique. Et nous initions aussi des mini-projets de développement communautaire, l'agriculture, l'élevage, ainsi de suite.
Quelles sont les activités que vous organisez dans les paroisses?
Comme activité, nous tenons des réunions hebdomadaires et ou mensuelles des comités diocésains ou paroissiaux. Nous organisons des récollections où nous développons habituellement deux thèmes. Un thème spirituel et un autre thème de développement. Et souvent, c'est pendant des temps forts de l'Église, comme le carême, l'Avent. Nous mobilisons aussi des fonds de vivre et non-vivre pendant la journée mondiale des malades. Les femmes chrétiennes catholiques de différentes paroisses se mobilisent, collectent, recueillent des biens, des vivres et non-vivres que nous remettons à l'aumônerie des malades. Pour les malades ou des fois directement nous allons dans des hôpitaux ciblés pour distribuer tout cela aux malades et ça se passe très bien. Nous prenons aussi en charge activement l'Église, cela dans les paroisses ou au niveau diocésain. Puisque vous savez que normalement l'Église est constituée en grande partie par les mamans. Donc chaque fois d'abord les mamans offrent, là je fais allusion aux offrandes, mais il y a des moments où vraiment nous organisons la prière en charge des femmes chrétiennes catholiques dans les différentes paroisses ou au niveau du diocèse lorsqu'il y a besoin. Et il y a la participation active aux activités spirituelles et socioculturelles.
En rapport avec le mois de la femme, quel genre d'activité organisez-vous?
En rapport avec la célébration de la Journée internationale de la femme, il y a par exemple l'organisation des conférences, l'organisation du culte interconfessionnel, puisque ici nous sommes membres de la coalition des femmes chrétiennes et musulmanes, et c'est nous, les femmes chrétiennes catholiques, qui assurent la présidence pour le moment. Et chaque fois, nous commençons toujours les activités du mois de mars et du mois de la femme par un culte interconfessionnel. Et cela, c'est chapeauté par le ministère du genre. Où vraiment, toutes les femmes participent avec les différentes autorités politico-administratives.
Professeur Dontine Sanga, merci.
Merci.
La présidente de l'Association des femmes chrétiennes de l'archidiocèse de Kisangani répondait aux questions de Jacques Moukonkole. Vraiment, toutes nos excuses pour la qualité moins bonne de cet élément sonore. Par ici s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.